Monsieur Martinez, nous allons évidemment prendre le temps de revenir sur cette réforme des retraites et la bataille que vous menez contre ce texte. Avant d'entrer dans le fond, je voudrais rester un instant sur la forme. C'était cette semaine la fin de l'examen à l'Assemblée nationale. Quel regard vous portez sur ces deux semaines d'échanges qui ont été extrêmement vifs, qui ont parfois franchi les lignes, notamment en termes de virulence et de noms d'oiseaux prononcés dans l'hémicycle ?
Premièrement, je pense que y a une responsabilité du gouvernement qui a choisi une procédure accélérée sur un texte qui, on le voit, suscite beaucoup de commentaires, beaucoup de mobilisation. Donc, je pense que le choix du gouvernement n'était pas le bon. Il aurait fallu prendre plus de temps pour pouvoir. Après, une fois que cette procédure est mise en place, il faut que les députés fassent avec, si je puis dire, pas un spécialiste. Et donc, vous le savez. Les syndicats, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, le cœur de cette réforme, c'est l'article 7. Vous prenez toutes les pancartes et tous les slogans dans les manifestations, c'est 64. Il y a des très bons jeux de mots d'ailleurs autour de 64
ans. On va revenir à ça, Monsieur Martinez, mais sur la nature même des échanges, parce que vous êtes citoyen français, quand vous voyez la représentation nationale qui s'écharpe, c'est parfois qui s'insulte.
C'est parce que je suis citoyen que je me dis que quand... Il y a dans une réforme vraiment un problème fondamental, c'est de ça qu'il faut discuter. Or, après, moi je ne connais pas les habitudes de mots doux entre députés, mais le cœur de la réforme c'était 64 ans. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de débat, pas un seul débat sur cette question, et pas de vote, pose un problème.
Est-ce que vous considérez, Jean-Baptiste parlait du tumulte que l'on a pu voir à l'Assemblée nationale, on pense par exemple à ce député de la France Insoumise qui a traité Olivier Dussopt d'assassin, Aurélien Santoul en l'espèce, est-ce que vous considérez que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale dessert le mouvement social qui lui était plus pacifique, on n'avait pas ce type de d'insultes à quelques exceptions près?
Oui, je pense que il y a... moi je considère que les politiques, avec un grand P, les débats à l'Assemblée nationale, quand il y a un tel mouvement social, ils doivent soutenir et accompagner ce mouvement social. Or, là, à travers certainement des choses qui sont peu correctes, mais aussi un jeu un peu parlementaire qu'on retrouve quand même souvent, ben on va pas sur le fond de la question et ça donne lieu à beaucoup de commentaires et on parle plus de l'ambiance de l'Assemblée nationale que de la vraie question qui est cette...
Donc vous le regrettez?
Bien sûr que je le regrette.
Il y a eu effectivement un vrai contraste. On a vu entre le tumulte à l'Assemblée nationale et puis des mobilisations dans la rue qui se sont déroulées parfaitement dans le calme. Comment vous analysez en fait cette différence, ce contraste entre ces deux situations ?
Je ne sais pas comment l'analyser. Je vous le redis, l'Assemblée nationale, notamment quand il s'agit d'une loi et d'un mouvement social, doit être au service de ce mouvement social. Or, au travers... de nombreux incidents, on va dire ça comme ça, on a plus évoqué ces incidents que le fond du problème et ce qui est en débat dans la rue, de façon pacifique, comme vous l'avez dit, mais avec une grande détermination.
Mais est-ce que vous en faites le reproche à quelqu'un, Monsieur Martinez ? Vous avez dit le gouvernement pour le choix du véhicule législatif, mais est-ce que vous en prenez de la même manière aux oppositions qui ont participé de ce tumulte, puisque le mot était déjà prononcé deux fois ?
Oui. Donc il y a et le problème du gouvernement et le problème de ceux qui n'ont pas voulu aller... jusqu'à l'article 7, et je pense que... Alors, je ne connais pas les détails de la composition du groupe France Insoumise, mais on voit bien qu'il y avait une volonté de ne pas aller à l'article 7 pour des raisons qu'on retrouve parfois sur les bancs de l'Assemblée nationale et notamment à la France Insoumise, de s'approprier ce mouvement social et de faire passer les organisations syndicales au second plan.
Donc, pour être très clair, vous reprochez à une partie de la France Insoumise d'avoir en réalité voulu faire de l'obstruction pour ne pas arriver à cet article 7. Vous leur dites, vous vous êtes trompé, ce n'est pas la bonne stratégie.
On leur dit depuis le début.
Et et ils ne vous ont pas écouté.
Et la CGT n'est pas la seule, parce que je pense que...
Laurent Berger, de la même manière.
Je suis sûr que Laurent Berger a la même position que moi, on a eu l'occasion d'en discuter. Et c'est un problème.
Ça vous a mis en colère de voir ça ?
Bien sûr, parce que quand des forces politiques essayent de se substituer aux organisations syndicales ou essayent de se mettre... en avant par rapport aux organisations syndicales et ceux qui défilent dans la rue. Et je vous le répète, vous avez dû voir quelques images ou peut-être être sur le terrain, les pancartes, les mots d'ordre, c'est quoi ? À 90%, c'est 64 ans.
Justement, l'argument de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise pour justifier leur stratégie d'obstruction, qui a donc empêché cette discussion à l'Assemblée sur l'article 7, leur argument, c'est de dire on aurait fait voter l'article 7, on démobilisait complètement le pays. Il n'y avait plus de mouvement social, parce que c'était passé les 64 ans, donc il n'y avait plus matière à manifester.
Premièrement, c'est typiquement vouloir s'immiscer, ou en tout cas s'ingérer, dans des relations intersyndicales. J'ai entendu beaucoup de choses. Je pense que depuis le début, outre les mobilisations, ce qui marque l'opinion publique, et ce qui fait la force de ce mouvement, c'est l'unité syndicale. Tenir de tels propos ou penser de telles choses, c'est se substituer aux relations intersyndicales. La deuxième chose, parce que moi je pense que c'est important, vous savez, on a interpellé tous les députés de façon intersyndicale. Aujourd'hui, des députés, j'en connais, qui auraient peut-être voté contre, dans la majorité ou à droite, ou qui seraient peut-être sortis de l'hémicycle, comme on l'a vu pour l'article 2. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent à ceux qui, alors aux concitoyens de leur circonscription ? Vous savez pas ce que j'aurais fait, puisqu'il n'y a pas eu de vote. Ça, c'est un problème.
Ça veut dire qu'en un sens, vous étiez confiant sur le fait que l'Assemblée aurait pu ne pas voter cet article 7, voter contre cet âge de départ.
Il fallait mettre les députés, chaque député, devant ses responsabilités. Devant ce mouvement social, c'est toi, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu écoutes les citoyens de ta circonscription, ou tu fais ce que tu as envie ? Ça, c'est un vrai problème. Et y compris, ça légitime le côté démocratique de l'élection d'un député. Est-ce que tu écoutes ? Vous voyez, on était à Albi jeudi. Ouais. Quand il y a plus de manifestants dans la rue que d'habitants dans la ville, ça montre l'ampleur et l'ancrage. Eh bien, il fallait mettre chaque député devant ses responsabilités.
Précision, Jean-Luc Mélenchon, il a intervenu à distance dans ce débat. Il a envoyé un tweet, il a fait un meeting pendant les débats à l'Assemblée. Ça vous a agacé, ça vous a choqué
que pour être honnête, jeudi, j'ai beaucoup discuté.
Vous avez dû voir quand même.
Non, je passe pas ma vie à regarder les tweets de Jean-Luc Mélenchon. Je suis désolé pour vous. En tout cas, j'ai passé une excellente journée. J'ai été voir une entreprise de la métallurgie. J'ai été voir les cheminots. J'ai été voir des verriers. Et puis, on a manifesté avec beaucoup de monde. J'ai beaucoup discuté sur. Quel était le ressenti du mouvement, comment les salariés voyaient la suite, parce que c'est important aussi de leur demander leur avis.
Si on doit résumer, Monsieur Martinez, est-ce que vous diriez dans cette crise sociale que Jean-Luc Mélenchon est un allié ou que c'est parfois un boulet ?
Je ne veux pas polariser sur Jean-Luc Mélenchon.
C'est une question assez...
Je vous dis que ce qui a été fait à l'Assemblée nationale et le fait de ne pas aller à l'article 7 pour que chacun puisse afficher ses positions... C'est un problème.
Mais est-ce que c'est un allié du mouvement social, Jean-Luc Mélenchon ?
Quand il fait des choses comme ça, non.
Est-ce que vous parlez donc il joue contre le mouvement social quand il fait ce genre de choses ?
Il ne favorise pas la clarté des débats, la clarté des positions, et ça perturbe effectivement un certain nombre de salariés qu'on croise. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Machin.
Vous parlez encore avec Jean-Luc Mélenchon ? Vous échangez ?
Encore.
Ah, vous parlez alors ?
Non, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé à Jean-Luc Mélenchon.
Est-ce que ce n'est pas problématique ? Lui qui se présente politiquement comme un des principaux opposants à cette réforme, vous qui êtes, on y reviendra, pour les Français, une des principales figures d'opposition à cette
réforme. Dans la période, comme beaucoup de mes collègues syndicalistes, on a parlé aux députés, on a essayé de leur faire comprendre ce qu'on attendait d'eux. Évidemment, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent.
Lui, il n'est pas député en l'occurrence.
Qu'est-ce qu'il est ?
Il est patron de son parti.
Ah, je croyais que ça.
Figure emblématique, en tout cas.
D'accord, figure emblématique.
Donc, ça veut dire que pour vous, il n'a pas de légitimité.
Je n'en sais rien.
Si, vous le savez, puisque vous-même vous mentionnez, vous me questionnez sur sa fonction.
Parce que j'aimerais bien y voir clair. Moi, à la CGT, comme les autres, on discute avec des députés, avec des présidents de groupe. C'est là que ça se joue. Éventuellement, des présidents ou présidentes ou secrétaires de parti.
Donc, souvent les mêmes, d'ailleurs. En l'occurrence.
C'est souvent les mêmes.
Madame Panot.
Voilà.
Vous pouvez expliquer qu'il y a de très mauvais rapports entre vous, il faut le dire. Jean-Luc Mélenchon a souvent considéré que les syndicats n'étaient pas assez puissants pour mener la lutte sociale. Il a essayé de vous griller la politesse en faisant une journée de mobilisation un samedi. Enfin, ça se passe pas bien entre vous, on peut le dire comme ça.
Entre lui et moi ou entre...
Les deux, entre la CGT, la France Insoumise et entre lui et vous.
Entre lui et le mouvement syndical.
Ça se passe pas bien, on est d'accord.
Ça se passe pas très bien.
Mais du coup, pour que les choses soient claires pour nos téléspectateurs, est-ce que ça a un impact sur le lien entre la CGT et LFI, puisque vous l'avez rappelé à l'instant, il n'a pas de fonction officielle de direction de parti ou de groupe parlementaire.
Je vous le répète, on discute avec des représentants de la nation, ceux qui siègent au Parlement, et à LFI, bon, y compris à LFI, me semble-t-il, mais c'est vous les spécialistes, tout le monde n'est pas en phase.
Absolument.
Merci.
Alors, sur le fond de cette réforme de ce texte, l'index senior, Valérie.
Et oui, et l'index senior, donc c'était prévu par le gouvernement, et puis finalement, et cet index senior, c'était quand même une des rares mesures qui a été approuvée par certaines organisations syndicales, qui allait dans le sens aussi d'une meilleure prise en compte des salariés seniors. Est-ce que vous regrettez que la gauche ait voté contre cet amendement qui prévoyait des choses plus coercitives, d'ailleurs, l'index senior?
Premièrement, je crois qu'il n'y a pas que la gauche.
Il n'y a pas que la gauche, mais il y a la gauche.
Je crois qu'il y en a un qui s'est fait virer de ses responsabilités. Là,
Aurélien Pardier.
Enfin, il y a 38 députés LR qui ont contre
l'occurrence. Non, sur le fond, cet index, il ne sert à rien. La situation sur l'emploi des seniors, elle est connue depuis longtemps. C'est un phénomène qu'on rencontre dans les très grandes entreprises où à partir d'un âge certain, comme dirait l'autre, on est dégagé purement et simplement sur... Ça s'appelle soit des plans de départ volontaires, soit des plans de licenciement, etc., etc. Donc la situation, elle est connue, il n'y a pas besoin d'index. La question qui est posée, c'est quelles sanctions on applique à ces entreprises qui, sous couvert de faire plaisir aux salariés qui veulent s'en aller, dégagent 2 000, 3 000 salariés avec des fonds qui sont souvent publics. Cette situation, elle est connue, j'en ai parlé à M. Dussopt, à Mme Borne, preuve à l'appui, parce que je travaille dans une entreprise qui pratique ce genre de méthode depuis très longtemps. Donc il n'y a pas besoin d'un index. Il suffit d'analyser ces plans de départ volontaires. J'ai même posé la question à Mme Borne, c'était le 4 janvier, je crois. Avec quel argent ces salariés partent? L'argent des actionnaires ou de l'argent public? Parce que ce n'est pas la même chose. On utilise de l'argent public, c'est-à-dire des impôts des propres salariés pour les virer. Et vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'un index, la situation, elle est connue.
Mais il y a besoin de quoi alors, Monsieur Martinez?
Il y a besoin de réunir ces entreprises, les grandes. Je fais la différence entre les entreprises du CAC 40 et les plus petites entreprises, qui en général ne pratiquent pas comme ça, et de leur dire, voilà, pourquoi vous avez viré 2000 personnes? Avec quel argent? Et si... On arrive à faire la transparence, en tout cas moi je pense qu'on peut la faire, il y a la question, vous rendez l'argent des aides de l'État par exemple, les exonérations de cotisations sociales, et puis sur le fond, il faut réfléchir sur le travail, le sens du travail, parce que ce que l'on constate...
Alors justement, pardonnez-moi de vous interrompre, mais vous proposez une mesure punitive a posteriori,
bien sûr.
Le gouvernement dit, nous on veut travailler... A priori, on veut encourager l'emploi, puisque je rappelle pour nos téléspectateurs, vous avez les chiffres en tête, mais c'est 56% là de 55 ans le taux d'emploi en France. Donc c'est très mauvais, on n'est pas bon.
Oui.
Donc le gouvernement dit, nous on veut améliorer ça. Vous vous dites, faut punir après. Alors comment vous faites pour agir avant ?
Non. Moi je dis, la situation elle est connue, donc faut punir. Il n'y a pas besoin de faire un index et de vérifier pendant un an ou deux ans.
Et pour vous, la punition va suffire à encourager les entreprises ?
Je vais finir ce que j'avais commencé à dire. Donc il y a besoin de punir. Après, il y a besoin d'une réflexion sur le sens du travail. Parce que il faut le reconnaître. Les gens, les salariés, travailleurs, travailleuses, au bout, et je ne parle pas des métiers pénibles, ils ont tellement perdu le sens de leur travail. Pourquoi je vais au boulot? À quoi ça sert ce que je fais? Que évidemment, quand il y a un plan de départ volontaire, ils s'en vont. Et ça, il faut remédier à ça. Parce que même les punitions ne suffiront pas. Quand on ne sait plus pourquoi on va au boulot ou à quoi sert son boulot, dès qu'on vous propose de partir, vous partez. Et d'ailleurs, dans des entreprises, il y a parfois plus de volontaires pour partir que du nombre de départs imposés.
Mais comment vous faites pour redonner du sens?
Ce qui fait que, dans des entreprises, on se rend compte a posteriori que ceux-là, on n'aurait pas dû les laisser partir parce qu'on ne sait plus faire le boulot. Vous voyez ce que je veux dire?
Comment vous redonnez du sens?
Ça, c'est un vrai sujet.
Ce qui est un débat relativement différent de la question pure de la réforme des retraites.
C'est lié. Parce que si vous voulez que les... entre guillemets, seniors restent au boulot jusqu'à 60 ans comme l'on propose, il faut bien s'attacher à ça. Or, ça fait 10 ans que la CGT en parle, y compris au plus haut niveau, lorsque M. Macron était ministre de l'économie. Mais je sais que la CFDT en parle aussi depuis autant de temps que nous. Or, c'est un sujet qui est, alors je vais le dire prudemment, je ne sais pas si c'est dédaigné ou par les politiques ou ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Pour eux, parler du travail, c'est la courbe du chômage ou la courbe de l'emploi, parce qu'il n'y a que ça qui les obsède.
Monsieur Martinez, il y a un autre débat qui a agité ce qu'on a vu au Parlement, c'est la question des carrières longues, avec un gouvernement qui a confirmé un certain nombre de concessions, mais ça reste un peu flou. Certains continueront à cotiser plus de 43 ans, notamment ceux qui ont commencé à travailler à 16 ans et à 18 ans. Qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'Elisabeth Borne a annoncé? Est-ce que vous dites, c'est quand même un peu mieux?
J'ai compris comme vous. C'est un peu flou. C'est pas très clair.
C'est comme il y a du mieux pour ceux qui auront commencé à travailler à 17 ans, entre 20 et 21 ans.
Si on fait une concession, il y a du moins mal. Vous voyez la nuance? C'est comme pour les 1200 euros. Avouez que c'est quand même compliqué à comprendre, ou alors c'est très simple à comprendre. C'est-à-dire qu'on nous a fait des opérations de com sur personne ne serait payé moins de 1200 euros. Et puis, on se rend compte que finalement...
À temps plein et à carrière complète. Ouais. Désormais, précisent-ils tous.
Il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de monde qui restera en dessous des 1200 euros. C'est une augmentation.
Mais des augmentations malgré tout du minimum contributif.
Oui, mais il y a une nuance entre
absolument, vous avez raison.
Des augmentations et un plancher. Et c'est pareil pour la durée de cotisation. On ne sait plus quelle tranche d'âge tout à fait va être à 43, 44. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que, mais ça c'est ce que tout le monde a compris, c'est que tout le monde va travailler plus longtemps.
Vous pensez que le gouvernement a menti à dessein dans ce cadre-là, sur les 1200 euros par exemple?
Il a joué l'opération, mais c'est le discours de Madame Borne le 10 janvier. Rappelez-vous, c'est une réforme de progrès social, de justice sociale, et donc il fallait des arguments choc pour nous montrer à ceux qui bossent, à ceux qui vont bosser.
Le 10 janvier, en l'espèce, elle ne dit pas 1200 euros pour tous les retraités. Hein.
Elle dit c'est une réforme de justice sociale et de progrès,
social. Et d'équilibre. Oui, vous avez raison.
On parlait moins d'équilibre.
Équilibre, progrès, justice. C'est les trois.
On parlait beaucoup moins d'équilibre financier. Le discours a changé. Mmh. Et oui, il fallait de la com. Il fallait des phrases choc dont font partie les 1200 euros. Ils se sont tout de suite pris les pieds dans le tapis avec les 43 et 44 ans parce que, en fait, dans leur communication, plus on commençait tôt, plus il fallait que cotiser longtemps. Vous voyez, ça c'était le truc complètement délirant et qui ne reconnaît pas justement les carrières longues.
Nous allons revenir dans un instant en direct. Nous reviendrons sur la mobilisation. Vous appelez.
J'espère.
Blocage le 7 mars. Ben oui, on va prendre le train. Le temps, puisque ça concerne. Le train. Vous nous direz si on va pouvoir prendre le train. Vous nous direz si on pourra prendre le train le 7 mars. Ce serait une info importante pour les gens qui nous regardent. Et puis, comme chaque dimanche dans cette émission, retour de pub, je vous montrerai trois photos liées à l'actu. Vous pourrez en choisir deux. À tout de suite. La suite de BFM Politique en compagnie de Philippe Martinez. Monsieur Martinez, je vous montre trois photos d'actualité, elles vont apparaître juste ici. Vous allez pouvoir en choisir deux, et derrière chacune de ces photos, il y a une question. Vous allez voir San Marina, Renault, vous connaissez bien, et La Redoute. Quelle première photo choisissez-vous?
Prendre Renault.
Renault, à l'issue de votre mandat à la CGT, vous avez donc réintégré Renault, puisque c'est votre employeur. Est-ce que vous pensez qu'ils ont peur de vous récupérer?
Je sais pas, parce que pour l'instant, ils m'ont pas de... Je leur ai écrit, pour l'instant, ils m'ont pas donné de nouvelles. Donc, ils doivent réfléchir à quel poste peuvent-ils me proposer.
Vous pensez pas que quand on est un chef d'entreprise et qu'on récupère dans ses rangs un des, si ce n'est le principal leader syndical de ces dernières années, on a une petite appréhension?
J'espère que non, parce que les chefs des grandes entreprises parlent beaucoup de dialogue social, de la nécessité de syndicats. Alors s'ils raisonnent comme ça, c'est-à-dire que mais j'en connais quelques-uns qui disent moi les syndicats je suis d'accord, mais alors surtout pas chez moi. C'est grave pour la démocratie, c'est grave pour le dialogue social. Donc j'espère que les dirigeants de Renault ne raisonnent pas comme ça.
Mais donc vous allez reprendre votre activité, hein, vous n'êtes pas à la retraite, où il n'y aura pas de départ anticipé.
Non, il faut. Je suis comme les autres moi. Il y a l'âge légal et le nombre de trimestres nécessaires. L'âge légal je l'aurai bientôt. Mais pas les trimestres. Donc, je suis un citoyen, pour reprendre la phrase de quelques-uns, mais comme les autres, il faut et l'âge légal et les trimestres. Donc, je suis en train de regarder pour mes trimestres, parce qu'il y a des conneries dans ma carrière, mais il me reste encore des trimestres à cotiser. Voilà.
Il nous reste deux photos, Monsieur Martinez. L'enseigne de San Marina et le siège de La Redoute. Quelle photo choisissez-vous?
San Marina.
L'enseigne de vente de chaussures ferme, 163 boutiques, 600 salariés. L'hécatombe continue après Koukaï, après Camailleux, sans parler des entreprises menacées, André, Pinky, Gosport. Qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que, en tout cas pour San Marina, c'est un entrepreneur qui a voulu spéculer, se faire de l'argent sur le dos des salariés. C'est un truand, quoi. Et on a confié l'avenir de nombreux salariés, parce qu'il n'y a pas que San Marina, vous le savez, il y en a plusieurs marques, à quelqu'un qui a voulu se faire de l'argent sur le dos de grandes enseignes et de salariés. Je suis sûr qu'on lui a prêté de l'argent public pour reprendre ses entreprises. Il faudrait revoir d'ailleurs le fonctionnement des tribunaux de commerce, qui prennent souvent des décisions d'entre-soi, puisque les tribunaux de commerce, c'est de l'entre-soi, entre anciens patrons ou patrons qui confient le sort d'entreprises et de salariés, surtout, à d'autres entrepreneurs. Oui, c'est un scandale. C'est un scandale ce qui se passe à San Marina. Et avec ce monsieur dont j'ai oublié le nom et dont je ne veux pas me rappeler.
Monsieur Martinez, donc la réforme des retraites et votre lutte contre cette réforme. Prochaine journée de mobilisation à votre appel et celle d'autres syndicats, c'est le 7 mars. Journée de blocage. Question simple, dans quelle proportion ce blocage?
Alors, le terme exact, c'est pays à l'arrêt.
Ouais. Oui,
ça veut dire la même chose. Hein.
Enfin, non, mais je préfère qu'on...
Pour le mettre à l'arrêt, il faut bien faire bloquer les choses. Hein.
Je préfère qu'on cite les propos exacts du communiqué intersyndical. Ça évite des spéculations de je ne sais qui. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des millions de grévistes ce jour-là dans toute la France, qu'il y ait un mouvement de solidarité qu'on voit régulièrement d'ailleurs de la part d'artisans, de commerçants qui comprennent le problème, des rideaux de boutiques fermées, pendant le passage des manifestations par exemple, des choses comme ça.
Vous savez déjà qui va répondre à l'appel?
C'est-à-dire?
Est-ce que vous savez dans quelle proportion la France sera à l'arrêt? Est-ce que vous avez déjà une idée?
Pour l'instant, ça discute. Moi, je vous disais, jeudi, j'étais à Albi, j'étais discuté avec des salariés de la métallurgie, des cheminots, ils réfléchissent, les formes. Et puis, c'est pas parce que des leaders syndicaux disent « le pays doit être à l'arrêt » que le pays va se mettre à l'arrêt. Faut aller discuter, parce que comme dans tout mouvement de grève, quand le salaire complet d'un mois ne suffit pas pour manger, quand vous perdez une journée, même une heure, c'est encore plus compliqué. Donc il faut trouver des formes qui correspondent à la situation des uns et des autres. Et puis, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que le 7 mars est dans toutes les têtes. Tous ceux que j'ai croisés ont cette date-là en tête et il va se passer un grand mouvement le 7 mars.
Mais c'est un blocage. Pourquoi vous récusez le mot de blocage?
Non, parce que je préfère qu'on...
Enfin, c'est la conséquence, c'est ça. Je n'ai pas d'ordre de pudeur de gazelle.
Mais le mot d'ordre, c'est un pays à l'arrêt. La conséquence, évidemment, quand personne ne travaille, il y a.
C'est bloqué.
C'est bloqué. Le
on
pays
est,
est bloqué, bien sûr.
Comment est-ce que vous réussissez à occuper le terrain d'ici au 7 mars, c'est-à-dire dans un peu plus de 15 jours? Est-ce qu'il va y avoir d'autres opérations? Est-ce que vous ne craignez pas que les Français, s'il n'y a pas d'opérations massives, de grandes journées de mobilisation d'ici au 7 mars, eh bien, ce peut-être passe un petit peu à autre chose?
Je pense qu'ils ont. Cette question de retraite, ils l'ont bien en tête. Hein. D'accord? Parce que travailler 2 ans de plus, pour beaucoup, c'est juste pas possible. Il y a des initiatives dans plein de villes. Il y a des retraites au flambeau. Moi, je vais faire... Oui, ça se voit, vous savez, la nuit, quand il y a des centaines de personnes qui ont une torche comme ça. Mais je vous le redis, ça ne vous a pas échappé. Il y a des débats publics. Je vais participer à des débats citoyens. Je crois que j'en ai un à Saint-Étienne. Il y aura des manifestations locales, des rassemblements devant... pour interpeller des parlementaires, pour voir si... on est bien en phase sur les différentes modalités. Donc, il va se passer plein de choses. Et puis, il y a des rencontres dans les entreprises. Il faut aller discuter avec les services. Il faut aller discuter. Comment vous voyez une France à l'arrêt? Voilà. Concrètement, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est 24 heures, 1 heure, 2 heures? Il faut de la démocratie. Et la démocratie, elle se pratique en allant voir les salariés, pas en...
Monsieur Martinez, jusqu'à présent, l'attitude très responsable des syndicats a beaucoup contribué à l'adhésion des Français au mouvement social. Est-ce que là, en changeant de braquet, en ayant un mouvement beaucoup plus dur, vous n'avez pas peur précisément de perdre cette bataille de l'opinion que vous avez gagnée là sur le premier round?
Écoutez, vu le mécontentement, vu la qualité d'écoute, je mets des guillemets, du gouvernement sur ce mouvement social, tout le monde est d'accord, enfin, en tout cas, une très grande partie de ceux que je croise sont d'accord pour dire qu'il faut monter un cran au-dessus. Et je crois que j'ai vu un sondage qui disait en cas de blocage du pays, 66% des personnes interrogées considéreraient que c'est de la faute du gouvernement. C'est aussi un signe.
La CGT Chimie a appelé à une grève reconductible dès le 6 mars. Ça veut donc dire notamment tout ce qui concerne les raffineries. Là encore, pour être très clair, ça veut donc dire qu'on passe en grève reconductible dans ces raffineries et que donc potentiellement on se retrouve dans la même situation qu'au mois d'octobre dernier avec des pénuries d'essence pour les automobilistes. Pour qu'on parle très clairement des conséquences
de ces grèves
reconductibles.
D'habitude, moi je parle toujours très clairement. Donc c'est le 6 mars au soir,
pour
préparer le 7. Et évidemment, mais il n'y a pas que dans le pétrole.
Dans le pétrole. D'autres.
C'est posé dans beaucoup.
RATP.
RATP s'est annoncé aussi.
CGT éboueurs.
Les CGT qui ramassage des ordures, parce que c'est il y a du privé et du public.
Vous avez raison. Donc,
non, c'est bien d'être précis. Mais c'est posé partout. C'est pas posé partout 24 heures par 24 heures. Parce que je viens de vous expliquer que pour beaucoup, une journée de salaire en moins, c'est encore plus de difficultés. Mais je pense que dans de nombreuses entreprises, il y aura, et ça en discute, mais 2 heures tous les jours, par exemple.
Mais donc là, très précisément sur la CGT Chimie, est-ce que vous nous dites qu'il faut donc s'attendre à revoir des scènes que l'on a pu voir en octobre dernier, c'est-à-dire des pénuries d'essence?
J'en sais rien.
Bah, si on passe en grève reconductible dans les raffineries.
Il y a une grève reconductible. Rappelez-vous, c'était en octobre.
Oui.
Le gouvernement disait non, il y a pas de problème, il y a des stocks.
Il y a pas de pénurie et au final on les voyait.
Voilà, donc je sais pas.
Une journée, vous disiez, soyons précis, une journée de grève dans les raffineries, il y aura pas d'impact dans les stations-service. On peut fermer le tuyau.
Voilà.
Les stocks sont pleins dans les dépôts.
Oui,
les camions.
Pour l'instant, c'est le 7 mars l'objectif. Après, dans les assemblées générales.
Enfin, grève reconductible, ça a vocation à durer.
Donc on prépare le 7 mars, mais. Le 7 mars, il y aura deux nouvelles assemblées générales qui diront on continue demain. Et je pense d'ailleurs que le lendemain, ça ne vous a pas échappé, c'est le 8 mars.
Journée
internationale du droit des femmes, qui prend évidemment tous les ans beaucoup de résonance, mais encore plus cette année avec cette réforme des retraites, ce projet de réforme qui va impacter encore plus les femmes.
Et spécifiquement là, sur les raffineries, vous pensez que c'est une bonne idée de se retrouver effectivement avec le pays bloqué, plus d'essence? Ce serait un bon moyen de faire pression sur le gouvernement,
mais
pour vous?
C'est de la responsabilité du gouvernement. Il y a des millions de personnes...
C'est aussi de la responsabilité des organisations syndicales de voir jusqu'où on fait monter le...
Il y a des millions de personnes qui ont défilé depuis le 19 janvier. Chaque journée de manifestation, c'est des nouvelles personnes. Ça a beaucoup tourné.
Ce mode opératoire, il serait efficace.
Pourquoi le gouvernement n'écoute pas? Pourquoi? C'est une question. Donc, si ça ne suffit pas, des millions de personnes dans la rue et en grève, les salariés disent, si ça ne suffit pas, faut faire autre chose. Et plus fort. C'est l'objectif du 7 mars, en tout cas pour la CGT.
Vous l'aviez évoqué, vous étiez à Albi, donc avec d'autres responsables syndicaux, cette semaine. On vous a vu d'ailleurs sur BFM TV en compagnie de Laurent Berger, de la CFDT. C'est la bromance entre vous?
C'est une action unitaire qui, de mon point de vue, est la plus efficace quand les syndicats sont d'accord entre eux. On voit bien ce que ça donne en termes de mobilisation, en termes de participation des salariés.
Mais vous êtes copains, comme il dit? On voit cette une de Libération, on vous voit tout sourire tous les deux sur BFM TV.
Vous savez, il faut se méfier de ce qu'on dit dans les journaux et de ce qu'on peut écouter de la part de certains journalistes.
Donc vous n'êtes pas copains?
Ça veut dire quoi, copains?
C'est ce qu'a dit Laurent Berger, quand même, sur BFM TV. Il a dit que vous étiez copains.
Vous allez le vexer, là, attention.
Non, c'est assez franc, justement, entre nous. On est deux responsables syndicaux qui, on s'entend plutôt bien, même quand on n'est pas d'accord. Donc, on s'entend encore mieux quand on est d'accord.
Alors, justement, sur les points de désaccord, quand on pose la question à Laurent Berger sur la question des grèves reconductibles, lui, pour le coup, ne veut pas s'engager et dit c'est le 7 mars et ne veut pas entendre parler de grèves reconductibles. Ça veut donc dire qu'au soir du 7 mars, l'unité de l'intersyndicale volera en éclats, puisque vous êtes favorable à ce qu'il y ait des grèves reconductibles et pas lui.
Non, parce qu'il a aussi dit avec d'autres organisations syndicales que le lendemain du 7 mars, il y avait le 8 mars et qu'il fallait qu'il se passe des choses.
Donc, ça fait déjà deux jours. Le soir du 8 mars, alors, je vous l'accorde.
Depuis le début, vous savez très bien que depuis le début, on a un avis différent sur la notion de grève reconductible. Après.
Mais ça va poser un problème, ça.
Mais après, c'est ni Berger ni Martinez qui décident. Ouais.
Il faut quand même que Berger et Martinez soient alignés là, parce que depuis le début vous l'êtes et c'est pour ça que ça fonctionne.
C'est votre conception centralisée des affaires. Dans les entreprises, Martinez il peut y aller et dire demain grève reconductible. Si les salariés n'en veulent pas, ils diront à Martinez,
oui, mais...
rentre,
Non, laissez-moi finir. Ils diront à Martinez, rentre chez toi, on n'a pas besoin de toi pour décider. Les organisations syndicales et les responsables syndicaux, ils sont là pour dire, donner leur avis, voilà ce qu'il faudrait faire.
Oui, mais s'ils donnent deux avis différents, ça bordélise, comme dirait l'autre.
On verra. Et ils ne décident pas à la place. C'est ça la démocratie.
En tout cas, juste vous actez un désaccord sur la question des grèves reconductibles avec Laurent Berger.
Sur les formes de lutte, oui, on n'est pas d'accord. Mais depuis le début.
Et sur la question des grèves reconductibles, c'est-à-dire sur l'avenir du mouvement après les 7 et 8 mars.
Depuis le début, et vous l'avez souligné à plusieurs reprises, depuis la CGT a toujours dit il faudra passer à une vitesse supérieure. Et Laurent Berger et la CFDT ont dit on n'est pas prêt, on n'est pas d'accord. Vous le savez très bien. Depuis le début.
Ça va mieux en le disant.
Mais je le dis, vous m'écoutez pas assez
souvent. Si, je vous écoute beaucoup.
Si. Vous écoutez avec attention, je vous promets. Frédéric Souillot, le leader de Force Ouvrière.
De leader.
Bah oui.
D'accord.
Il fait partie de l'intersyndicale
aussi. Oui, bien sûr.
Oui, c'est important. Il nous a expliqué le week-end dernier sur BFM TV avoir eu Elisabeth Borne au téléphone. À l'époque, c'était pas votre cas. La Première ministre ne vous avait pas rappelé.
À l'heure où il l'a dit, ça n'était pas mon cas.
Alors, j'ai l'impression que le fait qu'il l'ait dit a sans doute changé un peu les choses. Est-ce que ça a été réparé?
Oui, elle m'a appelé à 21h02, oui, je suis précis, dimanche dernier.
Ouais. Donc juste après qu'il l'ait dit sur BFM TV.
Je ne sais pas si vous y êtes pour quelque chose, mais...
J'ai la faiblesse de croire que oui, mais est-ce que c'est pas étonnant qu'elle ne vous ait pas appelé avant?
Non, mais ça fait partie de la conception qu'a le gouvernement, Elisabeth Borne et le président de la République, du dialogue social et de la place des syndicats. On a dû lui dire...
Vous méprise?
Oui, je pense, oui. On a dû lui dire dans son entourage, il n'arrête pas de dire, je parle des leaders syndicaux, qu'il n'y a plus de contact depuis, pour certains, le 4 ou le 5 janvier. Tu ferais bien de leur passer un petit coup de fil parce que ça fait tache dans le paysage. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'était un appel de pure communication.
Il n'y a rien de concret sur le fait.
Et donc, vous vous êtes appelé, par contre, vous n'êtes pas vu depuis très très longtemps.
Non, on ne s'est pas appelé. Elle vous a appelé, pardon.
Excusez-moi.
Et elle a appelé mes homologues. Non, mais c'est important
d'être vu. Vous n'êtes pas vu depuis longtemps. Est-ce que ça aurait un intérêt que vous soyez à nouveau officiellement reçu par Elisabeth Borne, Olivier Dussopt, ou est-ce que ça servirait à rien? Voilà.
Mais c'est ce qu'on demande depuis le début. Elle retire, en l'occurrence, parce que c'est elle, la chef du gouvernement, les deux mesures qui font que les gens se mobilisent, allongement de l'âge de la retraite, allongement de la durée de cotisation, et on reprend les discussions. Et vous avez vu que, vous le savez, on a des propositions. Je vous ai parlé de l'emploi des seniors, on pourrait parler de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, on pourrait parler, et je pense que c'est important, de la prise en compte des années d'études pour les jeunes, en termes de trimestre non pas cotisé, mais assimilé, pour éviter qu'ils partent à 70 ans ou à 67 ans avec une pension incomplète. On pourrait parler des exonérations de cotisations des entreprises en matière. Des choses à discuter, on en a plein.
Mais vous pouvez lui dire ça au téléphone quand elle vous a appelé. Est-ce que vous lui dites ça ou est-ce que vous lui dites vous retirez, on discute, elle vous dit monsieur Martinez, on ne retirera pas, et du coup vous raccrochez.
Mais ça fait un petit moment qu'on lui dit. On lui a dit avant le 10 janvier, avant qu'elle annonce sa loi.
Mais elle vous appelle pour vous dire quoi alors?
Bonjour. Ça va bien.
C'est bien un prérequis qui semble normal.
C'est une pure formalité, c'est ça le problème. On a l'impression qu'elle ne se rend pas compte de ce qui se passe dans ce pays. C'est grave.
Et vous lui dites ça?
Oui. Mais à force, j'ai l'impression de radoter. Vous voyez?
Ça n'a pas d'impact.
Mais je suis pas le seul à le dire. Je fais confiance à mes collègues pour qu'ils
rapportent la même chose que vous.
Ils ont dit la même chose. Il y a juste l'heure d'appel qui diffère, vous voyez?
Philippe Martinez, le projet de loi arrivera le 28 février en commission au Sénat et les sénateurs, la majorité sénatoriale de droite, annoncent vouloir veiller à l'équilibre financier du régime. Il veut même aller plus vite sur l'extinction des régimes spéciaux. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous leur dites attention, on vous regarde et on sera très attentif à la façon dont le débat va se dérouler au Sénat?
Bah, évidemment qu'on va être attentif, mais on leur dit aussi, je pense qu'il faut interpeller leurs électeurs à eux, qui sont pas les mêmes.
Ce sont des grands électeurs.
Qui sont pas les mêmes que les députés.
Élus locaux.
Il faut interpeller les maires, les conseillers départementaux, pour leur dire attention, vous aussi vous avez des électeurs qui votent au suffrage universel direct et qui vont regarder pour qui vous votez et comment vous agissez sur les sénateurs. Parce que avec un tel climat de tension et de mobilisation, ça va être compliqué pour un certain nombre d'élus, et y compris des maires, des maires adjoints, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, de dire ben moi j'aurais bien aimé être à vos côtés, mais c'est pas moi qui ai décidé, vous voyez.
Il y a une question très importante qui est la façon dont la mobilisation évoluera si le projet de loi est voté. Après le Sénat, si la commission mixte paritaire se met d'accord, il y aura un vote à l'Assemblée, un vote au Sénat et éventuellement donc le texte qui serait voté. Dans ce cas-là, si le texte est voté définitivement, est-ce que vous nous dites la CGT prendra acte de ce qui s'est passé ou est-ce que vous continuerez à vous mobiliser contre la réforme ?
Écoutez, pour l'instant, moi je suis moins visionnaire que vous. Pour l'instant, l'objectif, c'est que ce projet de loi soit retiré avant la fin de tous les débats parlementaires, Sénat, Assemblée.
Et mais la CFDT, pour... Laurent Berger, dit si c'est le cas, tradition démocratique, on arrête. Est-ce que vous nous dites on continue ?
Martinez,
parce que c'est ce que vous aviez laissé entendre.
Martinez et la CGT vous disent ou vous redisent qu'il faut un 7 mars très fort et la suite du 7 mars très important parce que nous, on
et
pense...
fin mars, si la loi est votée, vous ne répondez pas, Monsieur Martinez, c'est important, je pense, pour ceux qui nous regardent.
Mais je réponds à votre question dans le sens où moi, je le vois.
Si le texte est voté, est-ce que vous continuez
à
vous
mobiliser ? Je vous répète que nous comptons bien que le texte soit retiré.
Et s'il est voté ?
Il soit retiré avant le 24 mars.
Et s'il est voté, est-ce que vous continuez
à
vous mobiliser ?
On verra.
Donc vous n'excluez pas la possibilité de continuer, même si démocratiquement, le texte est passé.
D'autres textes ont été votés.
Le CPE est pas rentré en vigueur.
Voilà.
Donc vous dites, on continuera.
On verra le moment venu, vous m'inviterez, on continuera à en discuter. D'accord ? Pour l'instant, la date importante, c'est le 7 mars.
Valérie.
Petit retour à l'Assemblée. On a vu pendant ces deux semaines de débat que le Rassemblement national et Marine Le Pen n'ont pas bordélisé. Hein, ils ont été plutôt responsables, enfin en tout cas très modérés dans leur façon de débattre à l'Assemblée. Est-ce que le Rassemblement national et Marine Le Pen sont les grands gagnants de cette séquence ?
En tout cas, pour l'instant, ils sont les grands gagnants de plusieurs séquences déjà passées. Ils ont 88 députés à l'Assemblée nationale. Et si on continue comme ça, c'est-à-dire notamment un président de la République et une première ministre qui refusent d'écouter ce qui se passe dans le pays, on est en train doucement de leur donner les clés de l'Élysée.
Vous voulez toujours pas d'eux dans les cortèges ?
Non. Enfin, on ne veut pas d'élus de représentants de ce parti dans les cortèges. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Eux, leur ennemi, c'est l'étranger. C'est les travailleurs sans papier qui contribuent, d'ailleurs, je tiens à le répéter, aux richesses de la France parce qu'ils travaillent, ils cotisent, ils payent des impôts et on a besoin d'eux. Et donc, on préfère, nous, être à leur côté plutôt que leur dire « retournez chez vous ».
Monsieur Martinez, sondage dans le JDD ce matin. Vous êtes la troisième personnalité qui, selon les personnes sondées, incarne le mieux la résistance face à cette réforme des retraites. D'ailleurs, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.
Mais on ne joue pas dans la même catégorie.
Je sais, mais le sondage vous met dans la même catégorie d'opposants.
Moi, je préfère préciser, on ne joue pas dans la même catégorie.
Il y a un congrès de la CGT, donc le 53e congrès, c'est le 27 mars, puisque c'est la fin de votre mandat. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui, sûr et certain, je m'en vais. Sûr et certain, je ne continuerai pas à la tête de la CGT.
Enfin, je vous le dis les yeux dans les yeux, c'est comme ça qu'on dit.
C'est ce qu'un autre disait. Ouais.
Sûr et certain.
Sûr et certain,
vous savez, ça sert à rien de se... Enfin, moi, je suis pour le renouvellement des hommes et des femmes qui font la société, que ce soit en politique ou dans le syndicalisme. Moi, ça fait 8 ans que je suis à la tête de la CGT. J'ai essayé d'impulser un certain nombre de choses, il y a des débats, mais on ne peut pas être et avoir été au bout d'un moment, il faut changer, il y a d'autres idées, d'autres personnalités, d'autres façons d'appréhender les choses. Il vaut mieux partir quand on s'éclate, comme disent certains, que quand on s'ennuie et qu'on devient aigri et qu'on embête tout le monde. Et je ne vise personne.
Non, mais si, un petit peu quand même.
Non, je vous vois sourire, c'est pour ça. Je vous vois votre sourire malicieux, je ne vise personne, que les choses soient claires.
Question calendrier quand même, parce que ce congrès, ça risque pas de perturber votre riposte à la réforme des retraites ? Vous pensez que le mouvement social, il sera terminé d'ici là ? Ça risque pas de cogner ces deux événements ?
Mais vous voyez, vous pensez tout le contraire de ce que je viens de dire. Avec ou sans Martinez à sa tête, la CGT, elle continuera à être... Elle continuera à être
avec
offensive.
Avec une CGT qui sera toute concentrée sur son congrès, on va y revenir, se déroule peut-être pas forcément dans une ambiance totalement apaisée, est-ce que ça ne risque pas de perturber ou de vous retirer des forces pour être offensif ?
On n'est pas du style à s'enfermer dans une pièce pendant une semaine et à refuser de regarder par la fenêtre ce qui se passe. Donc vous inquiétez pas, si le mouvement est encore très fort durant le Congrès. La CGT, elle sera présente dans les manifestations, dans les grèves, congrès ou pas congrès.
Monsieur Martinez, celle que vous soutenez pour vous succéder, Marie Buisson, est contestée en interne par un certain nombre de fédérations. Est-ce que vous pensez pouvoir réussir à l'imposer ou est-ce que vous prenez acte qu'elle ne fait pas l'unanimité, qu'il n'y a pas de majorité pour la soutenir?
Alors, premièrement, je ne veux rien imposer. Il est tradition dans notre organisation, depuis qu'elle est née, qu'on propose une personne pour arriver au secrétariat général. Il y a des instances qui votent. La direction nationale a voté à 72% pour cette proposition. Maintenant, il y a le Congrès. Je ne nie pas qu'il y a des débats dans la CGT, plutôt chez les chefs que chez les syndiqués, mais ça, c'est un autre débat.
Il y a du sexisme ou pas? Est-ce qu'on s'en prend à elle parce que c'est une femme? C'est ce que, parfois, vous avez sous-entendu?
C'est possible. Mais malheureusement, la CGT n'est pas mieux ou moins traversée par les problèmes de la société que l'ensemble de la société. En tout cas, moi, je pense qu'il faut que la CGT continue à s'ouvrir, continue à regarder le monde tel qu'il est, pas à l'accepter, parce que moi, je pense que le monde est mauvais dans sa façon d'évoluer. Regardez les questions environnementales, regardez la question des femmes, la place des femmes, les violences sexistes et sexuelles.
Monsieur Martinez, pardon de vous interrompre, mais on ne parle que de femmes pour vous succéder, ce qui est, je pense, plutôt une bonne nouvelle.
Depuis quelques jours, oui.
Est-ce que Sophie Binet ou Céline Verzelletti, elles ont les qualités requises pour vous succéder?
Moi, c'est pas un concours, il n'y a pas de primaire à la CGT. En tout cas, ce dont je me félicite, c'est qu'aujourd'hui, alors que c'était contesté il y a encore quelques semaines, l'idée qu'une femme puisse diriger la CGT n'est plus un problème. Il était temps. Ça fait 128 ans que la CGT existe. On se réclame à juste titre comme un syndicat féministe et ça pose encore quelques débats qu'une femme puisse accéder au secrétariat général.
Donc vous nous l'avez dit aujourd'hui, vous ne continuerez pas à la CGT, vous allez retourner chez Renault, en tout cas vous attendez une réponse de votre employeur.
Non, j'y serai le 3 avril.
Alors,
au matin.
Je vous raconte une anecdote. Ce matin, un membre de cette équipe, Charlotte, et que je salue, prend un chauffeur pour venir travailler.
On va le raconter, oui.
Voilà. Et vous savez ce qui... Donc on va le raconter à nos téléspectateurs.
Allez-y.
Le chauffeur lui dit, moi je veux que M. Martinez il fasse de la politique. Je veux voter pour lui, je veux pas qu'il s'en aille, et s'il s'en va, je veux qu'il fasse de la politique. J'imagine que si lui le dit, d'autres doivent le penser. Est-ce que ça vous touche? Est-ce que vous y pensez?
C'est bien que, justement, des salariés, enfin, des travailleurs qui sont loin du statut de salarié qu'on connaît, c'est-à-dire un chauffeur Uber, je crois, regardent la CGT comme une organisation qui les défend. C'était pas le cas encore il y a quelques temps. Enfin, j'ai entendu des commentaires.
Mais là, j'entends votre sens du collectif, mais il parlait de vous, là.
Et c'est bien. Mais
vous y pensez faire autre chose politiquement, monsieur Martinez?
Philippe Martinez, quand il sera plus secrétaire général de la CGT.
Vous parlez beaucoup de vous, la troisième personne, je trouve.
Oui. C'est comme Alain Delon, oui.
C'est vrai?
Oui, comme Alain Delon, oui.
Ça passera au Guignol. Ah non, le Guignol n'existe plus.
Non, mais est-ce que vous y pensez, monsieur Martinez?
Donc, quand je ne serai plus. C'est la première personne, ça.
Ouais.
Quand je ne serai plus secrétaire général de la CGT, voilà, je ne représenterai plus rien.
Vous serez plus jeune que Jean-Luc Mélenchon en 2027.
Et vous n'avez pas envie d'y réfléchir?
Mais j'aurais... non, je serai très vieux.
Vous serez plus jeune que Jean-Luc Mélenchon.
Un ultra senior, et donc à la retraite.
Donc candidat à l'élection présidentielle, jamais?
Jamais. La CGT, elle sera représentée, je l'espère, par une femme, et c'est d'elle dont vous parlerez, c'est elle que vous inviterez sur ce plateau pour répondre à vos questions.
Une toute dernière question très rapidement, liée à votre moustache.
Tout à fait.
Elle m'a fait rire, cette question.
Tout à fait. Bah oui, parce que, monsieur Martinez, vous dites que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout pour bloquer cette réforme. Seriez-vous prêt à raser votre moustache si le gouvernement reculait?
Si le gouvernement... Ça, c'est des paris entre footballeurs, ça.
Tout à fait. Hein, on est là-dessus, clairement.
J'ai joué au football dans ma jeunesse, mais j'étais pas au niveau d'Mbappé ou de footballeurs comme ça, donc je me suis jamais posé la question. Mais peut-être que je la raserai pour d'autres raisons.
Merci beaucoup, Philippe Martinez, d'avoir été notre invité ce midi sur BFM TV. Merci Valérie Benjamin.